Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. La pandémie de coronavirus continue de sévir dans le monde, mais certains des pays les plus touchés entrevoient une lueur d'espoir. Après l'Espagne, où l'hibernation économique a pris fin, la France a fixé au 11 mai la date du début du déconfinement. Et l'idée que le pire est passé fait aussi son chemin aux États-Unis. Nous sommes très près d'achever un plan pour ouvrir notre pays, a déclaré hier le président américain Donald Trump, qui a évoqué un plateau de l'épidémie. Mais pour plusieurs États, la réouverture devra se faire lentement afin d'éviter une deuxième vague du nouveau coronavirus. Selon un bilan de l'AFP, la pandémie, plus de 1 889 410 cas dans 193 pays et territoires, a fait au moins 117 752 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 23 529 décès pour plus de 550 000 cas. Suivent l'Italie avec 20 465 morts, l'Espagne 17 489, la France 14 967 et le Royaume-Uni 11 329 morts. Le Fonds monétaire international a annoncé hier le versement d'une aide d'urgence à 25 pays parmi les plus pauvres du monde pour leur permettre d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19. La mesure annoncée permet de couvrir pour 6 mois les remboursements de la dette envers le FMI et d'allouer une plus grande partie de leurs maigres ressources à leurs efforts en matière d'urgence médicale et d'aide, souligne le communiqué. Parmi ces pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Tchad, les Comores, la RD Congo, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, Sao Tome et Principe, la Sierra Leone et le Togo. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a déclaré hier que la France et l'Europe vont devoir aider l'Afrique à lutter contre le coronavirus en annulant massivement sa dette. Au Gabon, le confinement de Libreville et de 3 communes limitrophes a débuté lundi dans la capitale sous la surveillance des forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP. Boutiques et marchés quasiment vides, barrages policiers à de nombreux carrefours, la plus grande ville du Gabon a tourné au ralenti lundi. Il y a 57 personnes infectées, dont un mort dans le pays. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé hier une prolongation de 2 semaines du confinement dans les régions les plus touchées du pays, dont Lagos, mégapole de 20 millions d'habitants, dans un climat social tendu doublé d'une multiplication d'actes criminels. Les aides gouvernementales ne parviennent pas à calmer la population, ni la faim, ni la colère de la population, et les émeutes, les cambriolages et les actes de criminalité ont fortement augmenté ces dernières 24 heures. Le Nigeria compte 323 cas déclarés, dont 10 décès. Dans le reste de l'actualité, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui mène depuis 1 an une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale appuyé par l'ONU, a essuyé un nouveau revers lundi en perdant 2 villes stratégiques. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar al-Kadhafi en 2011. Le conflit a été exacerbé par les ingérences armées étrangères, avec notamment les Émirats arabes unis soutenant le maréchal Haftar et la Turquie appuyant le gouvernement d'union nationale. En bref, pour terminer, une primaire démocrate américaine, le champion de la gauche Bernie Sanders, s'est clairement rallié lundi à la candidature de son ex-rival, le modéré Joe Biden, avec un objectif assumé, battre Donald Trump, que M. Sanders qualifie de président le plus dangereux de l'histoire moderne. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique, Washington DC.
La suite de nos informations. L'Arabie saoudite a expulsé près de 3000 migrants éthiopiens ces dernières semaines, malgré les craintes que de telles opérations puissent accélérer la propagation du coronavirus en Éthiopie. Abdulrahman Dia.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis mi-mars, 2800 se sont dit rapatriés éthiopiens et tous, sauf 100, ont été renvoyés d'Arabie saoudite. L'expulsion et la déportation de migrants éthiopiens en situation irrégulière alors que la réponse de leur pays au Covid-19 n'est pas prête les met en danger, écrit Catherine Sozi, coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour l'Éthiopie. Les migrants sont gardés dans des centres de détention en Arabie saoudite avant d'être renvoyés en Éthiopie et on ne sait pas très bien dans quelle mesure les autorités saoudiennes les dépistent pour détecter les symptômes de Covid-19. Le gouvernement éthiopien avait demandé l'arrêt de ces expulsions jusqu'à ce qu'il puisse mettre en place 30 centres de quarantaine à Addis Abeba, a indiqué Mme Sozi, ce qui n'a pas empêché les expulsions de se poursuivre. Selon l'OIM, un demi-million d'Éthiopiens se trouvaient en Arabie saoudite en 2017. Depuis, 10 000 Éthiopiens ont été expulsés chaque mois d'Arabie saoudite.
Les Américains considèrent maintenant les maladies infectieuses comme une menace majeure à la sécurité nationale, plus que toute autre problématique. C'est un net changement imposé par le coronavirus selon un sondage Ekiabatu.
Selon le centre de recherche Pew, 79% des personnes interrogées décrivent la propagation de maladies infectieuses comme une menace majeure pour les États-Unis, contre 73% disant la même chose du terrorisme ou de la prolifération des armes nucléaires. La pandémie de Covid-19 a radicalement changé les perceptions. Seuls 52% des Américains considéraient les maladies infectieuses comme une menace majeure en 2014, quand Pew avait posé la question en pleine épidémie d'Ebola en Afrique. Plusieurs experts ont déjà prédit que le nouveau coronavirus allait modifier les priorités pour la sécurité nationale américaine et la recherche, comme lorsque les attaques du 11 septembre 2001 avaient braqué les projecteurs sur le terrorisme et le monde musulman. Pew, qui a interrogé 1000 Américains, indique que cette nouvelle préoccupation transcende les lignes partisanes et générationnelles. Le sondage a été effectué par téléphone du 3 au 27 mars avec une marge d'erreur de 3,7 points de pourcentage.
L'émissaire américain pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a salué hier le premier échange de prisonniers entre les talibans et Kaboul. Il a repris les discussions avec les insurgés pour remettre sur les rails le processus de paix déjà menacé. Eric Manirakidza.
L'émissaire américain est retourné au Qatar, où il a déjà négocié pendant plus d'un an avec les rebelles, a annoncé hier le département d'État. L'échange de prisonniers est une étape importante dans le processus de paix et la réduction des violences, a écrit sur Twitter Zalmay Khalilzad. Il appelle les deux camps à accélérer les efforts pour atteindre les objectifs inscrits dans l'accord américano-taliban aussi vite que possible. Ce texte signé fin février prévoit entre autres la libération par les autorités afghanes de 5000 talibans prisonniers contre celle de 1000 membres des forces afghanes aux mains des insurgés. Les talibans ont libéré dimanche 20 prisonniers alors qu'ils avaient quitté des discussions inédites avec Kaboul sur le sujet la semaine précédente. Les autorités afghanes ont annoncé dimanche avoir libéré 100 talibans, s'ajoutant à 200 autres déjà relâchés. L'échange de captifs ne signifie cependant pas la reprise des discussions, ont précisé les talibans qui continuent leur offensive contre les forces afghanes.
La minute écho, Namit Talani.
Le Soudan a signé un accord avec la FAO pour importer 200 000 tonnes de blé dont la livraison devrait se faire en mai. Cet accord permettra au pays de conserver 50 millions de dollars en devises étrangères. Le Soudan dépend beaucoup de ses importations de blé avec une consommation de 2 millions de tonnes par an. Le pays connaît une inflation annuelle d'environ 70%, une pénurie de devises fortes et une lourde dette publique. L'Union africaine a nommé l'ex-patron du Crédit Suisse Tidjane Thiam et plusieurs autres dignitaires comme envoyés spéciaux chargés de solliciter un soutien rapide et concret auprès du G20 l'Union européenne et d'autres institutions financières afin d'aider le continent à affronter l'impact économique du coronavirus. Ces institutions doivent soutenir les économies africaines qui sont confrontées à de sérieux défis économiques avec un plan de relance complet pour l'Afrique, y compris des paiements différés de dettes et d'intérêts, a indiqué l'Union africaine dans un communiqué. Pour terminer, la Chine se déclare prête à étudier l'allègement de la dette africaine conjointement avec la communauté internationale. L'agence Reuters avait indiqué plus tôt que Pékin devrait approuver un gel temporaire des paiements de la dette des pays africains dans le cadre d'un accord attendu avec les principales économies du G20 cette semaine.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'ancien international ivoirien Didier Drogba apporte sa pierre dans la lutte contre le coronavirus dans son pays. D'après nos confrères de Fraternité Matin qui citent l'équipe, Didier Drogba a mis l'hôpital de sa fondation à disposition de l'État pour en faire un centre de dépistage. Il appartient à l'État de rendre l'établissement fonctionnel, a expliqué la directrice de la fondation. Cette période de trêve forcée n'empêche pas les clubs de renforcer leur effectif. En République démocratique du Congo, le technicien franco-italien Diogo Carzito s'offre un nouveau défi avec le FC Saint-Éloi Lupopo. Il était sans contrat depuis son départ d'Al-Ettihad Tripoli en Libye en 2018. Diogo Carzito connaît le championnat congolais parce qu'il a déjà coaché le tout-puissant Mazembe à deux reprises. Le FC Saint-Éloi Lupopo enregistre ainsi son quatrième entraîneur cette saison. Après Mankour Boualem, Papi Kimoto et l'intérimaire Kayembe Arma, en Égypte, le Zamalek a prolongé le contrat du défenseur central international égyptien Mahmoud Alaa, qui va rester avec les Chevaliers Blancs jusqu'en 2024. Alali a aussi retenu son milieu de terrain Tarek Hamed. Par contre, le géant égyptien laisse filer son défenseur de 35 ans, Ahmed Fatih, qui va rejoindre le Pyramide FC, toujours en Égypte. En Europe, Tottenham a finalement renoncé aux aides gouvernementales. Nous avons décidé que tout le personnel non-joueur, qu'il soit à temps plein ou au chômage partiel, recevra 100% de son salaire mensuel en avril et en mai, ont écrit les Spurs dans leur communiqué. Tottenham avait annoncé qu'il comptait profiter du programme gouvernemental de chômage partiel pour que ses employés non-joueurs ou son staff technique reçoivent 80% de leur salaire à concurrence de 2 800 € par mois grâce au programme gouvernemental. Cette décision du club londonien a été très critiquée par le monde politique, sportif et les supporters. En basketball, Jeremy Lin, premier Américain d'origine asiatique à avoir remporté un titre NBA l'an passé avec Toronto, a promis $1 million de dons pour lutter contre le coronavirus. Le joueur de 31 ans a expliqué sur Instagram qu'il ferait un don de $500 000 à la banque alimentaire Feeding America et l'ONG Direct Relief et doublerait chaque dollar versé via son initiative jusqu'à hauteur de $500 000 supplémentaires. Jeremy Lin est désormais joueur du Beijing Dax au sein du championnat chinois dont la saison est suspendue depuis le 1er février. Il avait accusé le président Donald Trump de stigmatisation raciste pour son emploi du terme virus chinois il y a plusieurs semaines.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidibia, à présent, nos dossiers du jour. Les autorités tchadiennes ont réaffirmé ce week-end leur engagement à maintenir leurs troupes sur les théâtres d'opérations extérieures, notamment dans le bassin du lac Tchad, mais aussi dans le Sahel. La semaine dernière, à l'issue d'une vaste opération militaire contre la secte Boko Haram, N'Djamena avait laissé entendre que ses troupes ne participeraient plus à des opérations hors de ses frontières, déplorant être seul à se battre contre Boko Haram lors de cette opération. Interrogé par Bagasukura, Moussa Aksar, journaliste d'investigation et spécialiste des questions de sécurité, basé à Niamey.
Vous savez que le président de Guy, il a ce problème interne. C'est pour cela qu'il a exporté cette guerre. Il est allé dans le lit du lac Tchad. C'est vrai qu'il a perdu au moins 92 de ses soldats. Mais il faut le dire, il a eu la logistique nigérienne. Il a eu aussi l'appui de forces nigériennes pour conquérir certaines îles. Il est parti, il a fait un ratissage, ce qu'il a dit, il a fait un ratissage, mais il se trouve que l'ennemi n'attend pas l'ennemi. Et aujourd'hui, on a un seul son de cloche qui se trouve être celui des Tchadiens où ils disent avoir neutralisé 1000 éléments de Boko Haram. Et je trouve ces chiffres très justes. Et il faut le dire aussi, la logistique que Déby a eue pour aller faire cette offensive, il l'a eue au Niger et au Nigeria. Aujourd'hui, ce sont des soldats tchadiens qui sont soignés au Niger, mais aussi, selon nos informations, il y a eu l'appui de l'artillerie nigérienne et nigériane qui lui ont permis au moins d'aller mener des offensives au Nigeria.
Et pourquoi alors il s'est montré frustré par le comportement des pays voisins qui n'adhéraient pas le Tchad dans ce combat?
Mais écoutez, il est venu parce qu'il avait ses problèmes pour essayer de faire diversion. Mais il se trouve que les armées nigériennes et nigérianes étaient prêtes à l'appuyer.
À Niamey, comment est-ce qu'on a réagi à ces propos de Idriss Déby qui semble leur dire qu'ils ne foutent rien dans la lutte contre Boko Haram?
Ceux qui n'ont pas compris le jeu d'Idriss Déby l'ont appuyé. Effectivement, suite à cette campagne médiatique où on a un seul son de cloche, celui des Tchadiens, mais ceux qui regardent bien sur les questions de sécurité dans ce Sahel-là savent que c'est une boucle du président Déby. C'est pour cela que Darda a envoyé un émissaire voir le président Issoufou et qui est allé aussi voir le président Bouhari. Après, il a diffusé un communiqué pour dire qu'il est dans le G5 Sahel et aussi qu'il reste dans la force multinationale mixte.
Alors, connaissant la secte Boko Haram, est-ce qu'on peut croire qu'il n'y a plus de Boko Haram, de militants Boko Haram au Tchad aujourd'hui?
Écoutez, les soldats tchadiens, quand ils étaient venus, ils ont dit qu'ils vont ratifier. Et je viens de le dire, l'ennemi n'a pas attendu, l'ennemi est allé en profondeur du Nigeria pour se cacher et il faut s'attendre aussi à une réaction de Boko Haram.
Moussa Aksar, journaliste d'investigation et spécialiste des questions de sécurité, basé à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Direction le Sénégal, à Dakar, le marailleur Galaï Sarr s'en remet à Dieu pour que cesse la malédiction du coronavirus. L'épidémie a plongé l'un des plus importants ports artisanaux de la capitale sénégalaise dans la torpeur. Les mesures prises par le gouvernement contre la propagation du virus menacent directement les exportations de poissons. Arzuma Compaoré.
Assis sur un quai généralement animé de la capitale du Sénégal, Dakar, le jeune poissonnier Galaï Sarr regarde en direction de l'Atlantique, le regard interrogateur. Lui et des milliers d'autres Sénégalais souffrent aujourd'hui des effets de la pandémie sur le fructueux commerce de poissons.
C'est mes grands frères qui partent attraper le poisson. Mais maintenant, ils sont accostés depuis longtemps à cause du coronavirus. Ils ne peuvent plus partir. Parce que même s'ils attrapent le poisson, on ne pourra plus le vendre. C'est pour laquelle ils ont resté chez nous. C'est seul nous qui partent travailler. C'est C'est juste le nom quoi qui est là, mais on ne gagne plus rien. Quoi.
Selon le poissonnier de 23 ans, les marchés locaux étaient déjà saturés et les prix étaient en baisse. Habituellement, il achetait des prises aux pêcheurs qui sillonnent l'Atlantique dans leurs pirogues multicolores. Il vendait ensuite les poissons aux usines de transformation qui emballent les produits pour l'exportation.
Demain, je peux épargner jusqu'à 100 000 francs. Mais maintenant, rien que pour avoir 20 000 francs, bah, c'est tout un sacerdoce. Tu vois qu'il y a beaucoup de différences. Bah, parce que tu ne veux plus vendre aux usines. T'es aux usines, bah, quand tu achetais ici et aller vendre aux usines, bah, tu allais faire beaucoup de bénéfices. Beaucoup même. Mais maintenant, bah, tu n'as pas trop de bénéfices. Tu as vu, on a acheté les poissons et on est obligé de les stocker ici. Parce qu'on n'a pas personne à vendre.
Le poisson est l'une des principales sources d'exportation du pays vers l'Europe, l'un des principaux marchés dont l'économie est grandement affectée par la pandémie de coronavirus. Les restrictions de vol ainsi que le couvre-feu antivirus du crépuscule à l'aube pour freiner la propagation du virus ont durement touché les exportateurs de poissons.
Ouais, ça c'est un poisson qui... L'espèce c'est la mer Noire. Ça devait être exporté. Mais le plus, ça part vers l'Italie. Mais à cause du coronavirus, on a annulé tous nos vols. Cause pour laquelle la poisson n'a pas pu être exportée. Et il y a beaucoup de gens, parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont les merlans noirs. Tout. Il y a beaucoup de tailles. Il y a des grosses comme ça, des petites ou des choses comme ça. Mais à cause du coronavirus, on n'a pas pu les exporter.
Galaï dit que malgré les risques que lui et ses frères prennent chaque jour en venant au quai et en ne respectant pas les consignes de distanciation physique, c'est à Dieu qu'ils s'en remettent tous.
On continue d'être ensemble, on mange ensemble, on boit ensemble, on fait tout ensemble. Donc vu que la coronavirus se propage d'une façon extrêmement très grave et ça tue, j'ai vraiment peur. Mais quand même on essaye de vivre et dire peut-être qu'un jour Dieu va enlever toute cette malédiction.
L'industrie de la pêche est l'une des plus importantes au Sénégal, employant environ 53 000 personnes directement. Et plus d'un demi-million de personnes indirectement, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Abdourahman Dia avec vous. Washington Forum revient cette semaine depuis la maison pour cause de COVID-19 et nous allons discuter justement des mesures de restriction allant jusqu'au confinement, voire l'état d'urgence dans certains pays pour stopper la propagation du COVID-19. Dans d'autres pays, les autorités vont même jusqu'à utiliser la géolocalisation grâce au smartphone pour, disent-elles, une meilleure traçabilité des personnes ayant testé positif au coronavirus. Certaines organisations de défense des droits humains jugent ces mesures excessives. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Cameroun, le syndicat des industries de l'hôtellerie et du tourisme enregistre une baisse très importante de la fréquentation des restaurants. C'est l'une des conséquences du COVID-19, puisque les restaurants ferment à 18h sur ordre du gouvernement. Reportage à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Le restaurant Cercle Vert à Yaoundé fermait habituellement cette porte à 23h. À cause du Covid-19, les activités s'arrêtent désormais ici à 18h. Un coup dur pour le promoteur René Wembe, qui dit avoir perdu 60% de sa clientèle. Il mit 19 personnes en chômage partiel en l'espace de 10 jours.
Ce matin même, je suis descendu adresser cette correspondance à ma banque et je suis en train d'attendre leur réaction parce que les versements que je faisais avant en rapport avec mes crédits, ma découverte que j'ai au niveau de la Société Générale, je ne peux plus assumer.
Plus loin, nous rencontrons au centre-ville la promotrice du restaurant Le Marseillais Plus. Elle s'est séparée partiellement de 2 employés. Lors de notre passage, son restaurant est resté désespérément sans clients.
Si je payais 5 poissons, je paye 2. Si j'ai 2 clients, je dis Dieu merci. Vous entendez, non? Il y a une baisse. Vous devez comprendre. Mais vous voulez que je fasse
Les Camerounais qui fréquentaient les restaurants aux heures tardives ne peuvent plus le faire depuis le 18 mars dernier. Le syndicat de l'hôtellerie et du tourisme au Cameroun redoute que ce corps de métier ne soit bientôt sinistré à cause du nouveau coronavirus.
Nous aimerions qu'il soit officiel, qu'on ne soit pas à la merci peut-être du banquier, qu'il soit officiel qu'il y ait une césure, une suspension peut-être de l'apurement des intérêts, que l'on convienne tous ensemble que des concepts comme la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, pourraient être suspendus en ce moment.
Le gouvernement n'a jusqu'ici pris aucune mesure d'accompagnement pour les opérateurs économiques. Emmanuel Junta, VOA Afrique, Yaoundé.
La plupart des temples et églises étaient déserts aux États-Unis le week-end de Pâques, célébré à la maison pour respecter le confinement. Les pasteurs et prêtres du pays étaient mobilisés plus que jamais, la plupart devant leur écran d'ordinateur, pour rassembler les fidèles en cette période incertaine de la propagation du coronavirus dans le monde. Nathalie Barge a joint le pasteur Babette Ebeka du ministère évangélique Jésus pour tous, qui apporte un regard positif sur le confinement forcé lors de la plus grande fête des chrétiens.
Cette année, nous avons passé cette fête chacun chez soi, complètement différent. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a insisté sur l'enseignement. Et je pense que c'est quelque chose de bien pour nous en tant que chrétiens d'avoir eu cette opportunité de se recueillir différemment. La plupart du temps, à la Pâque, c'est vraiment un événement énorme et grandiose. Et là, on a fait ça à la maison. Et je pense que ça a été aussi une bonne chose parce que ça nous a permis maintenant, au lieu de se focaliser sur la célébration, on s'est focalisé sur l'enseignement de la Pâque. On s'est focalisé de manière à ce que les chrétiens puissent se recueillir et méditer plus là-dessus et se réjouir de ce que Jésus-Christ a accompli pour les chrétiens.
En cette période particulière, comment faites-vous pour accéder aux fidèles, hein? Notamment, on imagine qu'il y a actuellement beaucoup de détresse sociale et c'est justement un moment où l'on a vraiment besoin de vous.
Donc en ce moment, le téléphone est notre meilleur ami. La technologie nous aide beaucoup parce que ça nous permet d'envoyer des messages, surtout des messages textes pratiquement tous les jours et des emails aussi pour être disponible à des messages qui encouragent. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens nous contactent et on essaye d'être vraiment présents. Nous bénissons Dieu parce qu'on a des très grandes équipes. Le clergé, c'est jamais une seule personne, bien sûr. Donc, ça nous permet d'être toujours présents, de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir être là pour prier avec les gens, pour leur donner la paix, pour les calmer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui perdent l'espoir. Beaucoup de gens ont perdu leurs emplois et ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va se passer après la crise. Parce qu'en ce moment, oui, on ne peut pas les poursuivre pour les loyers, pour les paiements, mortgage, les banques et tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? C'est des informations que nous n'avons pas. Et ça crée vraiment de la panique.
Alors justement, vous avez parlé de la crise qui devient en somme économique. Qu'en est-il des contributions à l'heure actuelle ?
Mais tu sais, ce qui est intéressant avec l'Église, c'est que notre Dieu, il agit vraiment différemment. Par exemple, nous, dans notre Église, on s'est rendu compte qu'on a plus de contributions maintenant en dimanche qu'on avait avant. Et les contributions sont essentiellement, bien sûr, électroniques. Donc, il y a plusieurs moyens comme le Cash App, comme le Zelle, le banque à banque.
Est-ce que vous observez actuellement une montée de la foi en quelque sorte, hein, ou même est-ce que cette situation suscite des vocations ?
Oui, de ce côté-là, absolument, absolument, parce que vous savez, la peur, il y a un verset de la Bible qui nous dit que la tristesse, selon Dieu, elle amène au salut. Ça veut dire que à un moment, quand on est désespéré, quand on est complètement perdu, c'est un moyen aussi pour Dieu, nous croyons. Les gens au pied du mur, ils se retrouvent qu'ils doivent regarder qu'en haut. Tout ce qu'ils peuvent regarder maintenant, c'est Dieu. Et tous les yeux se tournent maintenant plus vers Dieu qu'ailleurs parce qu'on se retrouve maintenant dans l'impuissance humaine. Donc, effectivement, il y a eu une montée. Juste un exemple, nous, par exemple, dans nos réunions, on a au moins 30% de plus de participation. Et une autre chose que ça a augmenté, c'est les gens qui se connectent maintenant d'autres États qui n'auraient pas pu être là physiquement avec nous, mais maintenant qui sont capables de bénéficier des enseignements et du support. Et je pense que ça, c'est un des positifs qui va sortir de cette crise.
Le pasteur Babette Ebeka du ministère évangélique Jésus pour tous, jointe dans le Maryland, ici aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sevilla et de Michel Joseph à la mise en œuvre. Bonne journée à l'écoute de VOA.